France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, s'en est pris dernièrement à l'esthétique du Bauhaus, un courant né en 1919, la question du contrôle, de la mise au ban, de la déqualification de l'art par le pouvoir politique est revenue sur le devant de la scène. Le musée Picasso à Paris propose justement une exposition intitulée « L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme ». Alors à partir de ce travail fascinant, une question, plusieurs même, comment la dégénérescence est-elle diffusée au 19e siècle, jusque dans le domaine de l'art et dans le monde nazi. Quel a été le parcours de ces œuvres spoliées ou confisquées? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Emmanuelle Polak. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation en France. Vous êtes par ailleurs chargée de mission au musée du Louvre et l'autrice de cet ouvrage intitulé « Le monde de l'art sous l'occupation », un ouvrage qui est paru aux éditions Texto. Merci d'être venue ce soir à Question du Soir.
L'idée directrice du Bauhaus était la rupture avec toutes les traditions de construction et l'assemblage de maisons à partir d'éléments préfabriqués. Il s'agit en réalité d'une vision d'horreur, d'une vie dans un espace réduit, pleine d'interdictions et de restrictions. Les styles architecturaux, différents d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, devaient être partout les mêmes. Le Bauhaus ne peut donc pas nous servir de modèle, mais seulement d'aberration historique.
La voix Emmanuel Polak de ce député d'extrême droite allemand, député AFD, pourquoi s'attaque-t-il à ce courant artistique, le Bauhaus, qu'est l'imaginaire, cherche-t-il à générer, à activer à travers ces termes?
Écoutez, tout d'abord, son message me glace, parce qu'on revient, encore dans les années 30, et vous dire tout d'abord que le Bauhaus est une école née en Allemagne, à l'initiative d'Henri van de Velde, un architecte belge, et de Walter Gropius, un architecte et designer allemand, et qu'il est né, ce courant, ce mouvement, cette école est née au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, dans une volonté, eh bien, de créer un espace un peu communautaire, très fonctionnel, aérien, de proposer un nouveau langage architectural. Et très très vite, les nazis vont s'emparer de ces notions pour, là encore, eh bien, trouver que c'est laid, que cette esthétique universelle, eh bien, doit être condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle est très proche du communisme, elle est très proche des idées du communisme.
On va revenir, Emmanuel Polak, sur ce terme de dégénérescence, on va même en faire la généalogie. Je reste un instant tout de même sur l'actualité, sur les mots employés par ce député de l'AFD. Lorsqu'il s'attaque au Bauhaus, il s'attaque par ailleurs à un style international, comme si ce style était tout à fait déraciné, comme s'il était sans origine, sans terreau. C'est cela aussi que certaines personnes d'extrême droite reprochent à ce type d'art, à ce style, c'est au fond d'être un art déraciné.
On part sur des délires, hein. On peut pas se reposer sur leurs théories. Au contraire, on les condamne. Ce que l'on voit bien ici, c'est qu'on reproche le cosmopolitisme, l'universalité, j'ai envie de dire, je vais jusqu'à l'humanité, hein. Il faut que ça soit très traditionnel, il faut que ça soit rattaché à une région, il faut qu'il y ait une particularité régionale. Non, l'art, c'est beaucoup plus que ça. L'art, c'est la possibilité d'avoir des partages, d'avoir le métissage, d'avoir voilà, toute représentation universelle, ce qui nous émeut.
Alors on va revenir sur ces figures évidemment, mais poursuivons ce que vous avez déjà entrepris, Emmanuel Polak, c'est-à-dire la généalogie de cette expression dégénérescence. Dégénérer, c'est un terme qui s'enracine, qui provient du monde médical. Racontez-nous.
Le monde médical, effectivement, dès le 19e siècle, avec Max Nordau, qui est donc un médecin et un sociologue, et qui va être le premier à s'emparer de ce terme, et qui va condamner déjà la modernité, parce que c'est très proche de la maladie, de la dégénérescence physique, mentale. Ça sera repris par un idéologue, un architecte nazi, Paul Schulz-Naumburg, qui va, dès 1928, écrire un livre, je vous donne le titre, « Art et race. Et voici ce qu'il dit en résumé. Il dit que seuls les artistes racialement purs peuvent produire un art sain et que bien évidemment, au contraire, les artistes modernes, racialement métissés, corrompent l'art en produisant des œuvres difformes.
Ce qui est par ailleurs éclairant, c'est l'étymologie même du terme dégénérescence, c'est la distance à l'origine notamment. Et on a l'impression que dans cette étymologie, il y a toute l'idéologie charriée par ce terme et notamment son employabilité par les nazis. La distance à l'origine, racontez-nous ce que ça relate justement.
C'est une condamnation du cosmopolitisme, de l'intervention de l'autre, de l'intervention du métis, de l'intervention des étrangers. Et donc, c'est une volonté d'être proche du sol, d'être vers la tradition. Se rappeler simplement qu'Hitler, par deux fois, n'est pas renvoyé, mais n'a même pas accès à l'école des beaux-arts de Vienne, et que pour lui, la définition de l'art, c'est vraiment coller le plus possible à la représentation, à une carte postale, à une photographie. Donc dès qu'on emprunte des langages picturaux différents, il ne les contrôle pas, il ne les comprend pas, et donc arrivé au pouvoir, il va vouloir éduquer le peuple allemand et le ramener au bon goût petit bourgeois.
La voix d'un historien que vous connaissez bien, Johann Chapoutot, grand spécialiste justement du monde nazi, il nous donne d'autres éléments d'éclairage.
L'art dégénéré trahit la nature parce que il est l'expression d'une biologie qui est elle-même dénaturée, qui est elle-même malade, alors que l'art allemand, lui, traduit la nature. Les proportions sont respectées, le corps grec est parfaitement harmonieux, la symétrie des temples et de l'architecture germanique depuis la Grèce est parfaitement respectée. Tout cela montre qu'on a affaire à des cerveaux, à des appareils sensoriels, perceptifs et à des gestes créatifs qui sont parfaitement sains, c'est-à-dire en accord avec la nature.
Comment les nazis vont-ils s'y prendre, Emmanuel Polak, pour distinguer l'art officiel de l'art dégénéré ?
C'est une grande campagne d'épuration de l'art moderne réalisée dans tous les musées allemands qui avaient, s'étaient intéressés à leurs expressionnistes, Lovis Corinth, Emil Nolde, qui est nazi et qui pourtant figure dans l'exposition Art dégénéré, on va en parler, Ernst Barlach, Otto Dix, bien évidemment, Franz Marc, et également d'autres artistes qui figuraient au sein des cimaises des musées allemands. Donc très très vite, les artistes considérés comme dégénérés n'ont plus le droit de peindre, n'ont plus le droit de créer. Et puis, on va donc procéder à une grande campagne d'épuration. Environ, on peut dire que 16 000 œuvres sont déposées des cimaises des musées allemands. Ensuite, on va les réunir et en 1938, Hitler va visiter le lieu de stockage de ses œuvres et Goebbels, dans son journal, écrit « Aucune œuvre ne trouve grâce à ses yeux et il faut absolument tout détruire ». Mais il y a une possibilité beaucoup plus intéressante qui est de liquider aussi ou d'échanger cet art moderne. Mais avant, il faut faire une démonstration et en 1937, il y aura une démonstration magistrale de ce que est l'art dégénéré en opposition totale avec le grand art allemand.
On va revenir justement sur ces expositions, sur la comparaison de ces expositions parce que c'est à la fois illustratif et effrayant. Mais avant cela, vous avez donné bon nombre de nom d'artistes. Ce qui est visé aussi par les nazis à l'époque, ce sont des mouvements entiers. Ce que l'on vit, c'est l'expressionnisme, l'abstraction, le dada, la nouvelle objectivité. Tous ces mouvements-là sont entièrement discrédités. Quand on entendait encore tout à l'heure ce député allemand, ce député de l'AFD, ce qu'il reprochait au Bauhaus, c'était d'être laid. Est-ce que là, on emploie les mêmes arguments ?
Mais c'est laid selon leurs propres critères.
Bien sûr.
Mais pour nous, aujourd'hui, il y a une énorme revanche des dégénérés parce que rien ne peut produire une plus grande émotion que de se trouver face à un tableau de Chagall ou face à un tableau de Picasso. Donc, moi, j'aurais peut-être intitulé cette exposition « La revanche des dégénérés ». Et puis, même à l'époque, même en 1937, il y a eu énormément de visiteurs. Alors, tout a été fait pour que l'on ricane de ses œuvres. Tout d'abord, la scénographie est excessivement déraisonnable, c'est-à-dire que les œuvres sont présentées à touche-touche. Il y a des grandes lignes, des grandes phrases racistes qui courent le long des cimaises. Les fenêtres sont obstruées. Tout est fait pour susciter l'aversion, le dégoût envers ces œuvres d'art. Néanmoins, ça sera visité par plus de 2 millions de personnes à Munich et puis par 3 millions lorsque cette exposition va être itinérante dans les villes allemandes pendant 4 années. Et quelquefois, il y a le prix de l'œuvre en Reichsmark, donc qui montre à quel prix on achetait ces œuvres et qui vont là encore en grande période d'inflation, en grande période où le peuple allemand souffre également, eh bien, est absolument dégoûté.
Donc on humilie ces œuvres et les artistes évidemment qui les ont conçues, imaginées, réalisées. Et dans le même temps, on met en place une autre exposition intitulée « La grande exposition d'art allemand » qui incarne l'esthétique nationale socialiste. Qu'est-ce qu'on y expose là dans cette exposition officielle, si je puis dire ?
Tout à fait. En opposition, en regard, vous avez cette grande exposition de l'art allemand, des grandes perspectives blanches, les œuvres sont mises très en valeur, c'est très aérien. Hitler lui-même a choisi les œuvres d'art. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des statues d'Arno Breker monumentales, où vous avez des femmes dans leur forme néoclassique, arienne bien évidemment, absolument dans des courbes tout à fait harmonieuses, et qui dialogue eh bien avec des guerriers virils de Joseph Thorak en opposition.
Évidemment, et je voudrais qu'on mette en lumière deux artistes en particulier. Racontez-nous comment le régime nazi, le monde nazi, entrevoit, qualifie même les œuvres de Marc Chagall, pour commencer.
Alors, pour nous, vous savez, les historiens d'art, on aime avoir des images, hein. Il nous faut décrire, hein, les, sans nos images, on est un petit peu.
Alors, décrivez-nous
gêné,
ces images à la radio, c'est toujours un défi.
Je vais essayer, mais surtout, je vais envoyer vos auditeurs aller admirer la prise de Chagall, qui est vendue comme sous le nom du rabbin, bien évidemment, et qui moi m'émeut beaucoup parce qu'il y a tous les symboles juifs, parce que à travers ce rabbin qui prise du tabac, j'y vois d'abord un lien intime entre l'histoire de Chagall et entre l'histoire du shtetl, entre son histoire intime et le monde d'Isaac Bashevis-Zinger, le monde yiddish qui a été englouti par la Shoah. Et donc, cette œuvre avait été achetée en 1928 à la Kunsthalle de Mannheim. Donc, en Allemagne, on présentait cette œuvre qui est assez grande, hein, qui mesure environ 1 mètre sur 89 centimètres et qui donc présente ce rabbin. Et ce rabbin a la barbe verte. Et pourquoi n'aurait-il pas la barbe verte ? Il y a une recherche picturale de Chagall derrière qui est en train de faire un petit peu de recherche autour du jaune, autour du vert. Il y a les symboles, bien sûr, l'étoile de David. Et ça, vous voyez, les nazis ne peuvent pas le supporter. Pour eux, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui va peindre un rabbin avec la barbe verte, eh bien, c'est de l'art dégénéré, c'est de la dégénérescence. Il est daltonien à tout le moins, ou il est complètement fou s'il produit cette œuvre. Cette œuvre a donc été présentée dans l'exposition Art dégénéré et elle sera vendue lors de la grande vente des œuvres d'art dégénéré le 30 juin 1939 à Lucerne. Et elle sera achetée par un directeur du musée de Bâle qui fera une très très bonne affaire puisqu'il achètera cette œuvre pour 1600 francs suisses.
Un autre exemple, évidemment, c'est Pablo Picasso. Ça raconte une histoire un peu différente. Là, c'est un artiste considéré comme judéo-bolchévique et on organise même la sémitisation de Picasso. Il faut nous raconter comment.
Alors, comment on va dire que Picasso est juif ? Et ce qui est très, très joli, c'est que Picasso, lorsqu'on lui dit « vous êtes juif », il ne dira jamais qu'il n'est pas juif.
Il ne n'ira jamais.
Non, et c'est
un... évidemment la plus belle réponse à formuler.
Absolument, de toute façon, on est juif souvent par les antisémites. Hein. Mais les contradicteurs de Picasso vont insister sur c'est parce que c'est le plus grand maître du XXe siècle, parce qu'il fait des recherches et les critiques eux-mêmes vont trouver que c'est de l'art dégénéré parce que il va essayer plusieurs courants. Tout d'abord le cubisme. On a d'ailleurs une petite pastelle dans l'exposition Art dégénéré, une aquarelle nature morte de cet artiste qui sera retrouvée chez un des marchands d'Hitler plus tard. Mais pour revenir un petit peu à la sémitisation de Picasso, ce qu'on lui reproche véritablement, c'est d'être cosmopolite. Et puis, je dois vous dire quand même qu'en 1937, il a produit Guernica, qui est vraiment un grand pamphlet contre les totalitarismes fascistes et que
contre on ne lui parle fasciste espagnol en particulier,
absolument,
évidemment.
Absolument, mais on peut aussi en donner une version aussi plus universelle. Vous dire également que le 3 avril 1940, Picasso demandera la nationalité française, il la demandera une seule fois, ça sera refusé le 25 mai 1940 et il ne la demandera plus jamais et il restera espagnol toute sa vie. Voilà. On lui en veut aussi parce que il y a une vraie cotation des œuvres de Picasso avant-guerre. Le marché de l'art des Picasso avant-guerre est très très haute. Son génie est déjà tout à fait reconnu. Et les critiques d'art français collaborateurs vont participer à la dégradation et la dévaluation de son œuvre sur le marché de l'art, notamment à Paris, comme on le verra peut-être un peu plus tard.
Vous avez donné un chiffre un peu plus tôt dans cet entretien, Emmanuel Polak, celui de 16 000, hein, c'est le nombre d'œuvres qui ont été confisquées par le régime allemand, et je voudrais que vous opériez pour nous une distinction importante que vous m'avez apprise, d'ailleurs la différence entre la confiscation et la spoliation, parce que cette distinction mérite d'être mise en lumière tout de suite.
Oui, une confiscation, c'est l'État, c'est le national-socialisme qui va confisquer purement et simplement, les œuvres sont enlevées des CIMES par décision, par ordre du gouvernement. La spoliation, et moi je l'ai beaucoup étudiée en France plus particulièrement, la spoliation est issue d'un double process. Le premier process, c'est là encore pour la France, l'occupation allemande, les ordonnances allemandes qui veulent mettre, et là j'ouvre des guillemets, sous sauvegarde le patrimoine des Juifs, et qui vont être aidés dans cette spoliation par les lois infâmes de Vichy, par le statut du 3 octobre 1940, et qui va, là encore, eh bien, permettre, par ce processus, de stigmatiser une population, de l'éradiquer de la vie économique, de la piller, de la spolier. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les œuvres d'art, mais les appartements ont été spoliés, les comptes en banque, voilà. L'interné dans les camps français, les déportés vers l'Allemagne, où, in fine, ils seront exterminés dans les camps polonais. Vous voyez ce que a à voir la spoliation.
Une histoire qui est racontée dans le film Monsieur Klein, avec Alain Delon, évidemment.
Absolument, c'est un des plus bels exemples. Vous avez vraiment raison, ce film de Lozeux qui est vraiment merveilleux, où Alain Delon campe ce monsieur Klein avec cette double figure. Et effectivement, ce tableau qui est vendu à vil prix par cette famille juive qui est obligée de se protéger, essaye de fuir et qui va négocier à très très bas prix, eh bien, cette œuvre d'art.
Je voudrais que l'on revienne un instant, Emmanuel Polak, sur ces œuvres confisquées. Que sait-on de leur parcours une fois qu'elles ont été justement confisquées par le régime? Que deviennent-elles? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de retracer avec rigueur, précision, ce qu'elles sont devenues dans les décennies qui ont suivi?
Alors, on peut parler de la vente de Lucerne de 1939. Déjà, ça c'est déjà très important. Environ 125 œuvres, mais également des sculptures, sont envoyées en Suisse à la galerie Fischer, une grande maison de vente, et à Lucerne, une grande vente aux enchères est organisée. Deux camps s'organisent. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va faire des bonnes affaires? Parce qu'il y a tous les chefs-d'œuvre de l'art moderne d'Allemagne qui arrivent sur le marché de l'art en Suisse.
Qui est ce « on » dont vous parlez? Qui se rend effectivement à Lucerne pour acheter des œuvres?
Est-ce que les directeurs de musées, les directeurs de musées français, les directeurs de musées suisses, les directeurs de musées belges, la municipalité de Belgique, Liège, pour ne pas la citer, qui va faire de très belles affaires, qui va acheter 9 œuvres, dont la famille Soller, qui est présentée dans l'exposition « Art dégénéré » au musée Picasso. Et donc, est-ce qu'on y va? Qu'est-ce que va devenir l'argent? Est-ce qu'elle ne va pas aller pour le réarmement de l'Allemagne? Ou alors on doit boycotter cette vente infâme où les œuvres eh bien, vont être liquidées et pour certaines à bas prix.
Et alors pour reposer la question que vous posez vous-même, est-ce qu'on y va ? Est-ce que par exemple les directeurs de musées français se rendent effectivement à Lucerne ?
Alors je vais parler du musée de Liège qui va se rendre très vite. Un mécène trouve l'idée absolument géniale de créer un centre moderne à Liège et il va avoir l'opportunité de collecter de l'argent, de préparer cette vente, d'avoir le catalogue et de faire ses commandes et il va acheter 9 œuvres merveilleuses de l'art moderne, dont notamment cette œuvre dont je vous parlais, la famille Soler, qui est le tailleur. La famille Soler, c'est Bennett Soler, c'est le tailleur de Picasso. En 1903, Picasso n'a pas tout à fait les moyens de s'acheter des costumes. Pour payer son tailleur, il va lui offrir le tableau de sa famille à l'occasion d'une chasse, partie de chasse imaginaire. Il y a un lapin qui vient d'être installé sur la nappe. Il y a un fusil. Cette œuvre est de grande dimension, 1,50 m. Sur 2 mètres, et elle est visible au musée Picasso actuellement.
Je voudrais que vous nous parliez d'un personnage en particulier, une personne même sur laquelle vous avez particulièrement travaillé. Vous m'excuserez par avance pour la prononciation. Hildebrand Gurlid de Hambourg. Qui était-il, ce marchand d'art extrêmement ambigu, et qu'est-ce qu'il raconte justement de l'histoire de ces confiscations ?
Alors, Hildebrand Gurlid va participer à la commission de confiscation avec 3 autres marchands d'art. Et Hildebrand Gurlid a un parcours très intéressant puisqu'il est tout d'abord un des directeurs du musée de Zwickau, puis il est proche des avant-gardes, des expressionnistes, il les aime beaucoup, il leur reconnaît la valeur intrinsèque des œuvres et donc il va être renvoyé par le Parti National-Socialiste. Il va être, sa grand-mère est juive, Madame Lewald, donc à ce titre il est carteron, il ne s'approche pas trop des grands cercles nazis, mais il n'est pas très très loin et il est assez proche d'un des marchands d'Hitler attitré de la mission de Linz qui est le musée qu'Hitler veut réaliser à Linz en Haute-Autriche pour y présenter les œuvres les plus importantes. Donc Hildebrand Gurlid vient à Paris sur le marché de l'art. Il va acheter pour Hitler des œuvres d'art classique, très traditionnel, surtout des œuvres du 19e siècle, des œuvres très romantiques ou du 18e siècle français. Mais lui connaît très très bien l'art moderne et il va acheter de l'art moderne pour lui-même qu'il gardera par-devers lui. En 1956, il décède, il laisse un héritage tout à fait ambigu à son fils et à sa fille. Cornelius Gurlid, son fils, est arrêté par les douanes allemandes et en 2012, on retrouve 1358 œuvres dans un appartement modeste à Schwanbing, dans la banlieue de Munich. Et là, on retrouve des œuvres qui avaient été déposées des musées allemands et des œuvres qui ont été spoliées, quelques-uns d'entre eux, à des familles françaises.
D'un mot, Emmanuel Pollack, que deviennent ces œuvres ? Que fait-on de ces œuvres et des personnes qui les ont achetées une fois le régime nazi tombé ?
Eh bien, il y a une grande histoire qui nous intéresse. Ce qui est tout à fait montré dans l'exposition L'art dégénéré, c'est que ces œuvres ont une histoire, elles ont une traçabilité, elles ont une matérialité. C'est très important de savoir si elles ont été présentées dans l'exposition Art dégénéré, si elles ont été présentées à la vente de Lucerne. Ça participe de leur connaissance. Nous, et moi, ça m'intéresse de présenter au public eh bien, ces œuvres avec toute la connaissance, avec tout l'appareil critique.
Je voulais qu'on termine cet entretien par un autre artiste, un compositeur en l'occurrence, considéré lui aussi comme un artiste dégénéré par le régime nazi, Igor Stravinsky, un extrait de L'Oiseau de Feu. Emmanuel Pollack, lire un extrait, je vous cède la parole.
Oui, dans la vie, tout est toujours un tout petit peu compliqué. Je vais reprendre une formule que j'aime de Maurice Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit de 1960. Voici ce qu'il dit, je le cite. Les régimes qui déclament contre la peinture dégénérée détruisent rarement les tableaux, ils les cachent et il y a un « on ne sait jamais » qui est presque une reconnaissance.
Merci beaucoup Emmanuel Polak et il faut se rendre au musée Picasso évidemment pour rendre visite à cette exposition sublime intitulée L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme, c'est au musée Picasso. Je le redis, merci beaucoup d'être venu ce soir à Question du Soir.
Merci infiniment Quentin. Thank you.